religieuses aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. La vie consacrée au Québec est en transformation profonde, mutation que l'on fait souvent remonter aux années 60, période marquée par le Concile Vatican II. Nous l'oublions trop facilement, les années 70-80 et dans une moindre mesure les années 90 ont été le lieu de nouvelles fondations au Québec, comme ailleurs dans le monde. Les décennies qui ont suivi le Concile n'ont pas été un long hiver ou encore un état de désert pour la vie consacrée, dira d'ailleurs un de mes invités de ce matin. Quels sont les traits de ces nouvelles formes de vie consacrée? Comment expliquer l'attrait qu'elles exercent sur une certaine jeunesse? Et quels sont, pour ces communautés dites nouvelles, les défis pour l'avenir? Voilà quelques-unes des questions qui nous occuperont cette semaine et la semaine prochaine à l'émission Vie religieuse aujourd'hui et demain. Des questions que je poserai à Marie Salmon et à Rick Van Leer, qui sont avec moi en studio. Originaire de Lyon, Marie Salmon est mariée et mère de 4 enfants. Arrivée au Québec en 2013, c'est en 2016 qu'elle devient la responsable nationale de la communauté du Chemin Neuf. À ce titre, elle supervise l'ensemble des missions de la communauté au Canada, communauté qui compte au pays une quarantaine de membres. La communauté du Chemin Neuf est à vocation œcuménique et réunit des prêtres, des célibataires consacrés et des membres mariés et leurs familles, pour un total de près de 2000 membres répartis dans une trentaine de pays. De son côté, Rick Van Leer est né à La Haye, aux Pays-Bas. Professeur adjoint à l'Institut de pastorat des Dominicains à Montréal, Rick Van Leer est un spécialiste en histoire, en sociologie et en théologie de la vie consacrée. Et sa thèse de doctorat, déposée tout récemment, porte sur les communautés nouvelles et les nouvelles formes de vie consacrées. Marie, Rick, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Marie, Rick, on parle de nouvelles formes de vie consacrées ou de communautés nouvelles lorsqu'on fait référence aux fondations survenues après le Concile Vatican II. Pourquoi ce repère historique plus qu'un autre? En quoi le Concile Vatican II vient favoriser l'émergence de nouvelles formes de vie consacrées? Question en nature historique, je l'envoie donc à notre spécialiste Rick Van Leer.
Oui, alors je rappelle peut-être pour les auditeurs le Concile Vatican II qui s'est tenu entre 1962-1965. C'est un jalon historique à la fois dans l'histoire plus récente du catholicisme, mais du point de vue statistique, il y a eu l'éclosion inattendue, surprenante à certains égards, de nouvelles communautés religieuses au moment même où des communautés religieuses de tradition ancienne, c'est-à-dire fondées avant le Concile Vatican II, passait par une période, je dirais, de turbulence, avec des départs importants, avec une attrition de nouveaux membres, certaines pertes de repères. Or, là, nous voyons ce que les sociologues Lemieux et Montminy, des sociologues québécois, appelaient durant les années 90 la vitalité paradoxale du catholicisme québécois, en l'occurrence, mais je dirais la vitalité paradoxale du catholicisme contemporain. Pourquoi ? Puisqu'il y a un nombre exponentiel de nouvelles formes de vie associative qui se déploient dans l'Église catholique. Les statistiques révèlent sur le plan mondial que les décennies subséquentes au Concile Vatican II ont vu naître pas loin de 700-750 nouvelles communautés religieuses dans pas moins d'une quarantaine de pays à travers le monde. Voyez-vous ?
Donc là, souvent on parle de crise, notion à nuancer, si on comprend bien les chiffres que vous avancez là. Le terme crise n'est peut-être pas le meilleur choix. Là.
De toute époque, dans l'histoire de l'Église, nous voyons à la fois des mouvements de décroissance et de nouvelle croissance. Durant les années 70, un jésuite du nom de Raymond Hostie a publié un livre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, « Vie et mort des ordres religieux ». Et c'est une approche psychosociologique et qui démontre que dans la longue histoire de l'Église, on parle ici de 17-18 siècles, à partir de la naissance, disons, du monachisme vers la fin du IVe siècle, ou début du IVe siècle, il démontre bien qu'il y a des cycles de vie et des cycles de mort qui habituellement s'échelonne sur une période de 250 à 300 ans. La majorité des communautés religieuses dans l'histoire du catholicisme s'éteignent après une période de 3 siècles. C'est dans l'ordre normal des choses au sens de norme. C'est ce que nous observons statistiquement. Une minorité de communautés parviennent à durer finalement à travers les siècles. On pense aux bénédictins, aux cisterciens, les jésuites, les dominicains. Ce n'est donc pas la majorité des communautés qui durent durant des siècles. Mais de tout temps, nous avons vu 2 phénomènes. Parfois, des communautés qui déclinaient, paraissaient moribondes et vouées à la mort, tout à coup connaissent une résurgence inattendue. C'est un phénomène auquel il faut être ouvert à l'intérieur de traditions déjà existantes. Puis, il y a des périodes dans la vie de l'Église où il y a une explosion, je dirais, de nouvelles communautés et à l'intérieur de ces nouvelles communautés, parfois, de nouvelles formes de vie religieuse ou de vie consacrée, ce dont nous sommes témoins pour la période qui suit le Concile Vatican II.
Et quelles sont les différentes formes de vie consacrée, justement, qui ont émergé depuis Vatican II?
Alors, si vous me permettez simplement de poser le portrait pour que tous puissent s'y repérer. Oui. Lorsqu'on parle ici, plus techniquement, de vie consacrée, il s'agit donc d'hommes, de femmes qui se consacrent à Dieu dans le célibat et la profession ou l'assomption des 3 grandes valeurs évangéliques dénommées pauvreté, chasteté, obéissance. C'est, disons, une définition plus formelle ou minimale de la vie consacrée. À l'intérieur de la catégorie de la vie consacrée, il y a 2 sous-catégories, des formes individuelles de vie consacrée et des formes collectives ou communes. Dans les formes individuelles de vie consacrée, nous retrouvons les vierges consacrées, qui existent déjà dès les premiers temps de l'Église, ainsi que les ermites diocésains. Dans les formes communes de vie consacrée, on retrouve les instituts religieux, tels par exemple les dominicains, les jésuites, les franciscains, pour les hommes d'un côté, puis instituts religieux féminines, donc les femmes de l'autre côté, il n'y a pas de communauté mixte ici, tels par exemple les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, les missionnaires de la Charité ou les sœurs grises de Montréal. Puis, 1947, la reconnaissance par Pie XII des instituts séculiers, tels l'institut séculier Pizis, Voluntas Dei, ou encore les oblates missionnaires de Marie Immaculée. Puis, une dernière catégorie qui n'appartient pas formellement à la vie consacrée, mais qui s'en rapproche, les sociétés de vie apostolique. C'est le cas, par exemple, des Pères Blancs missionnaires d'Afrique ou encore de la Société des missions étrangères fondée il y a plus d'une centaine d'années ici au Québec. Voilà le portrait de la vie consacrée telle qu'elle est classiquement reconnue et inscrite dans le droit de l'Église, que l'on appelle le code de droit canonique. C'est important dans ce portrait, d'avoir une saisie de ce portrait pour pouvoir dégager de possibles nouvelles formes de vie consacrée. Il y a dans les nouvelles formes 2 types de communautés. La première, ce sont les communautés nouvelles de type mixte. Or, la mixité fait référence à la mixité des sexes, c'est-à-dire que ces communautés comprennent, dans une même appartenance communautaire et juridique, des hommes et des femmes. Vous voyez, alors que dans les instituts religieux, hommes et femmes appartiennent à des réalités distinctes. Donc, communauté mixte d'une part, et d'autre part, les communautés nouvelles, dites plurivocationnelles ou pluriétatiques, signifiant par là qu'on y retrouve l'ensemble des états ecclésiaux et des états de vie reconnus dans l'Église catholique, à savoir des ministres ordonnés, prêtre, diacre en l'occurrence. On y retrouve également des membres laïcs, célibataires, mais également mariés, et le cas échéant avec des familles, donc des personnes mariées qui ont des enfants. Puis on retrouve également des célibataires consacrés à Dieu par les 3 valeurs évangéliques dont j'ai parlé tout à l'heure, réalité qui se rapproche là très très grandement de la vie religieuse classique. Et l'ensemble de ces états, de ces personnes, appartiennent intégralement à une même entité communautaire et juridique.
Parfait. Merci, Rick, d'avoir ainsi défini les notions. Un excellent portrait d'ensemble. Et Marie, j'aimerais vous demander, de votre côté, Qu'est-ce que vous voyez comme caractéristique du coup? Comment est-ce qu'on pourrait caractériser les nouvelles formes de vie consacrée? Est-ce que des éléments qui transcendent la plupart des communautés nouvelles?
Oui, on peut essayer de trouver ces quelques caractéristiques. Alors, bien sûr, toutes ces communautés nouvelles revêtent des formes très, très variées. Et peut-être une première caractéristique, c'est que justement, il y a une grande flexibilité. Alors, pour la plupart, elles sont apparues, elles ont émergé donc après Vatican II, de manière assez spontanée. C'était pas des communautés qui étaient programmées. On les a vues émerger souvent un peu comme la première communauté chrétienne, hein, si on relit les Actes des Apôtres, le chapitre 2, on voit que c'est suite à la Pentecôte, à l'accueil de l'Esprit-Saint, il y a eu cet élan spontané pour se rassembler ensemble. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Ça a été non explicite dans la Bible, mais c'est quand même le premier mouvement qu'on remarque à la lecture de ce livre. Et c'est un peu ce qu'ont vécu ces premières communautés nouvelles, enfin ces communautés nouvelles, qui ne sont pas les premières communautés, c'est ce phénomène de se rassembler de manière spontanée.
Ce besoin.
Une autre caractéristique, ça pourrait sans doute être sur la visibilité. Visibilité qui passe beaucoup à travers le témoignage. On sent aussi que c'est des communautés où la place de la prière est centrale. Alors, prière sous toutes ses formes, prière personnelle, bien entendu, parce que chacun de ses membres a fait une expérience personnelle du Christ. Pour nourrir cette expérience personnelle, c'est bien sûr dans cette relation quotidienne au Christ. Donc, place de la prière personnelle, place de la prière communautaire, sous toutes ses formes, adoration eucharistique, eucharistie, chapelet, groupe de prière, etc. Mais on va vraiment retrouver dans toutes ces communautés nouvelles une place très centrale de la prière. Et là encore, on revient aux Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain. Donc, il y a cette forme de vie commune, de prière centrale. Et puis, voilà, tous les gestes du quotidien, y compris les repas communs, etc. La vie communautaire est très centrale. Voilà. Et cela donne un témoignage, je crois, pour le monde. Place donc prépondérante aussi du témoignage de cette expérience vivante du Christ.
Témoignage qui passe justement par cette visibilité que vous avez évoquée.
Voilà, cette
on
visibilité.
On voit souvent, il y a plusieurs communautés nouvelles, et vous me corrigerez si je me trompe, mais qui entre autres reviennent à un habit, donc des signes clairs, donc ils portent l'habit aussi à l'extérieur donc de la communauté, dans la vie quotidienne. Ça aussi, ça fait partie de cette visibilité, ce besoin aussi de montrer sa foi, dans le fond. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est en fait, ces communautés en fait sont nées dans la sécularité, avec la conscience d'être chrétien et souvent démographiquement minoritaire, en tout cas en Occident, et de là l'importance d'une certaine visibilité au nom même du témoignage. Et parfois on observe un déphasage par rapport aux options qui prévalent ou qui ont prévalu du côté des communautés anciennes, qui ont soit adapté l'habit religieux. D'ailleurs, Perfecte Caritatis du Concile Vatican II, le décret sur la vie religieuse, ne demandait pas d'abandonner l'habit religieux, mais de le simplifier pour des questions d'hygiène et des questions de simplicité ou de pauvreté. Il faut bien comprendre ce qui était recommandé ou les lignes directrices du Concile. Cela dit, chaque communauté pouvait, dans sa culture et selon les membres appartenant à ces communautés, interpréter, adapter les choses dans une période aussi de transition, parfois de turbulence. Et dans certains cas, au nom même de l'apostolat, de cette proximité avec les gens, il valait mieux peut-être abandonner l'habit ou en tout cas le simplifier. Ou le réduire, enfin réduire n'est pas le bon mot, mais l'exprimer par exemple à travers la croix qui est portée, une certaine tenue vestimentaire qui exprime une simplicité de vie, si l'on veut. Et il y a actuellement du côté des communautés anciennes, tout comme des communautés nouvelles, une grande variété allant du grand habit monastique à la bénédictine, jusqu'aux vêtements très séculiers, à la manière par exemple des Xavières, qui sont insérés dans toutes sortes de milieux oui. de travail. Du point de vue sociologique, ce que j'observe depuis la vingtaine d'années que je travaille sur le sujet, je pense que la majorité des nouvelles communautés sont sensibles aux facteurs dont je viens de parler, celle d'être en minorité, dans la sécularité, donc de se redonner ou de se donner un visage qui soit repérable sur la scène sociale, et la majorité adoptent un signe ou l'autre de leur consécration religieuse, et là encore, allant de l'habit médiéval de type monastique jusqu'à des signes peut-être plus discrets, mais tout autant visibles.
Oui, oui. Et Marie, je crois qu'on peut dire qu'une mission axée sur l'évangélisation, c'est aussi un élément qui est présent chez la plupart des communautés nouvelles, sinon chez toutes les communautés nouvelles. Mmh. Comment ça se traduit à la communauté du Chemin Neuf, cette éducation de la foi, cette mission axée sur l'évangélisation?
Mmh. Alors, c'est sûr que c'est notre vocation aujourd'hui, hein, d'apporter cette bonne nouvelle au monde. Alors, elle va se traduire par différentes grandes missions. La mission auprès des couples, qui va être la mission Cana. Alors, c'est d'apporter une bonne nouvelle à tous les couples et les familles, de redonner cette espérance dans le mariage. Et donc, pas seulement apporter une bonne nouvelle aux couples, mais aussi aux couples peut-être qui seraient en difficulté, aux couples séparés, aux couples divorcés, remariés. Une autre grande mission va s'adresser à la jeunesse. Alors, des plus jeunes adolescents jusqu'aux jeunes adultes de 18 à 35 ans, et de pouvoir aussi permettre que tous ces jeunes puissent petit à petit, et là où ils en sont, vivre cette expérience vraiment de la rencontre du Christ. Une autre grande mission de la communauté du Chemin Neuf va être de pouvoir rejoindre les gens dans leur milieu de travail et les aider à s'interroger comment être croyant, comment être chrétien aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc accompagner en fait chaque enfant de Dieu dans sa réalité, qu'il soit jeune, qu'il soit engagé dans une vie de famille, qu'il soit engagé dans une vie professionnelle. Voilà.
Donc, vaste programme, une implication très, très intense pour un groupe d'une cinquantaine de personnes au pays, là. Donc, c'est un défi aussi, j'imagine, de mener cette mission-là avec un groupe somme toute restreint, là.
Bien sûr, alors il faut porter toutes ces missions, puis je crois que je ne les ai pas toutes citées encore, puisqu'il y en aurait encore d'autres, comme tout ce qui pourrait être accompagnement des personnes sur des chemins de guérison, ouais. etc., etc. Donc, les missions sont nombreuses, voilà, le champ de la moisson est vaste, et comme dans l'Église, les ouvriers ne sont pas toujours très nombreux,
ouais.
mais les envoyés du Seigneur sont toujours là.
Ouais. Et Rick Van Leer, je pense qu'on peut dire « a besoin nouveau, communauté nouvelle ». Alors, à quel besoin les communautés nouvelles viennent-elles répondre?
Je regarde ce que Marie a partagé depuis tout à l'heure. Je fais que confirmer, elle, à partir de l'expérience, moi, à partir de l'observation extérieure, comme sociologue et aussi comme théologien. Mon analyse m'amène à voir trois noyaux ou trois angles interprétatifs qui sont autant de réponses à des besoins. Le premier, c'est l'expérience spirituelle, la prière. Marie en a parlé. Ces nouvelles communautés sont des lieux où on accorde de l'importance et du temps oui. à la prière. Une prière liturgique parfois très développée, d'autres fois c'est une liturgie plus tranquille, axée sur plutôt la prière silencieuse. Dans d'autres cas, c'est plutôt l'accent du renouveau charismatique avec une certaine exubérance ou joie dans l'expression de la foi. Mais je résumerai les choses autour de la notion de école de prière. Et l'expérience spirituelle, c'est de la rencontre du Dieu vivant, tient là une place primordiale, et c'est un facteur d'attrait, mais la réponse également à un besoin pour les croyants, les croyantes, et aussi les non-croyants et les non-croyantes, ou les autres croyants aujourd'hui, et auxquels ces communautés répondent.
Donc c'est lié à un besoin dans nos sociétés qui vont rapidement, qui est des sociétés où le bruit, tant le bruit, oui qu'on entend, mais le bruit numérique, et donc ça répond un peu à ce besoin peut-être d'intériorité, de silence, en réaction à une société un peu hyper moderne.
Oui, et c'est passionnant le cas, évidemment, de ces nouvelles communautés. Lorsqu'on regarde, par exemple, les hôtelleries monastiques,
oui, oui.
Pour prendre le cas, par exemple, des trappistes à Val-Notre-Dame, Saint-Jean-de-Mata, il faut réserver un an d'avance.
oui.
Un an d'avance.
Oui.
Ah, pour moi, c'est vraiment quelque chose de paradoxal. Alors qu'on dit, le catholicisme est en débandade, les communautés religieuses religieuse se meurt, etc., etc. Voilà que les monastères, je ne dis pas se remplissent de moines, c'est une autre question. Il y a là un défi pour la survivance aussi, oui, des monastères et leur prolongement. Mais les hôtelleries monastiques sont fréquentées. Mmh. Et sont fréquentées, oui, tant par des personnes croyantes, catholiques, que par des personnes agnostiques aussi, qui sont en recherche spirituelle. Mmh. Hein, et de ce point de vue-là, je pense qu'en parallèle, il faut également regarder les quêtes de sens, les parcours spirituels d'occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme, à l'hindouisme, au ashram, et il y a sociologiquement parlant quelque chose qui est apparenté, oui, ou parallèle au niveau de l'expression d'un besoin, et ces nouvelles communautés, je reviens à cela, en tant qu'école de prière et lieu d'expérience de Dieu, répondent assurément à un besoin. Le deuxième besoin, Marie l'a également nommé, et c'est celle de l'agrégation, de pouvoir se retrouver ensemble dans un contexte où les catholiques sont minoritaires, où ils peuvent parfois se sentir seuls. Et Marie, tu disais tout à l'heure, un chrétien seul est un chrétien en danger. Les nouvelles générations en sont particulièrement conscientes, étant nées hors contexte de chrétienté. Oui. Actuellement, donc ce besoin qu'ont les individus de se retrouver ensemble autour d'une vie communautaire forte, pouvant parfois devenir étouffante, ça c'est peut-être les excès du néo-communautarisme et le danger, si je me permets peut-être l'élément parfois un petit peu plus délicat ou plus négatif, il peut y avoir une tendance à un certain sectarisme, de se couper notamment de la société ambiante et de société qui est un peu stigmatisée, oui, comme n'étant pas chrétienne.
Donc un rejet.
Donc il y a un rejet.
Il y a un risque.
Il y a toujours ce risque à la fois de contestation de l'ordre établi ou de la société versus l'attestation d'autre chose sur la scène publique et la reconnaissance des valeurs qui sont bonnes et justes au sein de la société. Mais donc le besoin de faire communauté ensemble, réponse à un deuxième besoin. Et le troisième, je pourrais l'appeler la nouvelle évangélisation, l'évangélisation par le ministère de la parole, l'annonce explicite du Christ et de l'Évangile, également liée à cela la prière ou l'éducation de la foi sont pour moi les trois grands axes interprétatifs du phénomène, donc spirituel, communautaire et également l'annonce de la parole par l'évangélisation par le ministère de la parole ou la nouvelle évangélisation. Il me semble que là se cristallisent les grands traits de ces nouvelles communautés.
Et Marie, vous approuvez?
Moi j'approuve tout à fait, peut-être on peut rajouter un quatrième facteur, c'est que ces communautés nouvelles, même si elles sont en un sens en rupture avec les communautés traditionnelles, elles n'en sont pas moins au cœur de l'Église. Mmh. Et je crois qu'il y a quelque chose qui rassure de savoir que ces communautés religieuses ne se veulent pas en marge de l'Église, mais bien dans une reconnaissance ecclésiale. Elles ont chacune une reconnaissance canonique, juridique, différente, mais elles sont néanmoins reconnues par l'Église traditionnelle, l'Église institutionnelle. Voilà, et je crois que ça leur donne aussi une force, une profondeur, des racines.
Et justement, ça m'amène à cette question, comment réagit l'Église devant l'émergence de ces nouvelles formes de vie consacrées avec enthousiasme, réticence, et aussi est-ce que le droit canonique arrive à suivre, à s'adapter à ces nouveaux visages, d'Église? Dans le cas du chemin neuf, par exemple, vous avez évoqué la reconnaissance par Rome, donc comment ça se traduit du côté du chemin neuf?
Bon, alors dans le jargon des spécialistes, la communauté du chemin neuf est une association publique de fidèles. Et dans cette association, on retrouve donc à la fois des couples mariés, des célibataires consacrés, des prêtres. Et au sein de cette association est érigé un institut. Donc, institut signifie donc le lieu de reconnaissance pour les prêtres.
Oui.
Voilà, mais alors nous, on a une petite caractéristique qui complexifie tout, c'est que nous sommes une communauté catholique à vocation écuménique, oui, comme ça l'a été dit au tout début. Donc, on a aussi, au sein de notre communauté, de cette association publique de fidèles, des membres non catholiques. Mmh. Voilà, donc nous avons cette dimension interconfessionnelle qui fait que c'est pas si facile de nous ranger dans une case.
En effet. Et c'est le cas pour plusieurs communautés nouvelles, Rick, cette situation.
Oui, en fait, pour répondre à ta question, Mathieu, d'abord, quelle est un peu l'attitude spontanée des autorités de l'Église, à savoir les évêques et ultimement les responsables du côté de Rome. Trois mots, à mon sens, caractérisent leur réaction: surprise, reconnaissance, puis prudence et discernement. Mmh. Surprise, Jean-Paul II, le premier, le cardinal Ratzinger, avant de devenir Benoît XVI, s'était déjà exprimé sur cela. Et les deux vont parler de printemps inattendu de l'Église, que c'est tout à fait surprenant, personne ne s'y attendait.
Ça revient à la spontanéité que Marie évoquait plus tôt en entrevue, cette émergence qui n'était pas programmée.
C'était pas programmé. Évidemment, historiens et sociologues qui analysent plus finement le phénomène voient qu'il y avait tout de même des racines, comme le Concile Vatican II n'a pas été un surgissement tout à fait spontané, peut-être inattendu dans son annonce par le pape Jean XXIII en 1959, mais néanmoins on reconnaît qu'il y a des racines au Concile Vatican II qui se préparait à la fin du 19e et début du 20e siècle. Il en est de même pour ces nouvelles communautés et ces nouvelles formes de vie consacrées. Les foyers de charité de Marthe Robin, par exemple, c'est déjà durant les années, je pense, les années 50. Ici même à Montréal, la Société du Christ Seigneur, fondée par un jésuite et qui regroupe également la diversité des États dans l'Église, c'est avant le Concile. Mais il n'en demeure pas moins qu'après le Concile, et c'est mon premier mot, c'est surprise. On ne s'y attendait pas. Deuxième mot, c'est reconnaissance. Pas au sens canonique du terme, mais au sens de remerciement.
Oui.
Au-delà de la surprise, de dire voilà, ces nouvelles communautés apportent un vent frais dans l'Église, avec certains traits auxquels on ne se serait pas attendu, d'avoir par exemple des hommes et des femmes intégralement dans une même communauté œuvrant ensemble, la possibilité pour des couples mariés, leurs familles, d'œuvrer et de vivre avec des ministres ordonnés, des prêtres et des diacres, de même qu'avec des célibataires consacrés. Tout cela est dans la ligne du Concile Vatican II et de la vocation universelle à la sainteté, notamment.
Et la prudence, pour terminer avec la prudence.
Alors, du côté de la prudence, les évêques ont à exercer dans l'Église un ministère de discernement, c'est-à-dire de protéger aussi les membres et le peuple de Dieu, et éventuellement de canaliser cette vie émergente dans des nouvelles catégories juridiques ou dans les catégories existantes.
Marie Salmon, Rick Van Lier, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant et on refait ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est de rien.
Alors, je rappelle que Marie Salmon est la responsable nationale de la communauté du Chemin Neuf et que Rick Van Lier est professeur adjoint à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne et financée par la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Un amical merci à Pierre de Gagné à la régie. La semaine prochaine, alors, on retrouve Marie et Rick pour poursuivre cette réflexion sur les nouvelles formes de vie consacrées. Je m'appelle Mathieu Lavigne et je vous invite, d'ici là, à rester à l'antenne de Radio-VM.